Et nous sommes de nouveau dans l'épître aux Éphésiens ce matin avec ces chants de louange dans notre esprit. J'espère que cela vous prépare pour entendre le message, la parole de Dieu. Éphésiens. Et nous serons principalement dans le début du chapitre 2. Mais nous allons réexaminer un peu la fin de chapitre 1. Un passage que vous connaissez sûrement très bien et pourtant un bon rappel, pour nous rappel nécessaire, sinon Dieu ne l'aurait pas mis dans sa parole. Éphésiens chapitre 2, permettez-moi de lire les 10 premiers versets, alors suivez avec moi Éphésiens chapitre 2. Du verset 1 jusqu'au verset 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous demandons ton aide, déjà pour comprendre ta parole, mais surtout pour la mettre en pratique dans notre vie. Seigneur, travaille notre cœur, change en nous ce qui doit être changé, fortifie-nous là où nous en avons besoin, et que toute cette transformation se fasse par ta grâce et qu'elle soit entièrement pour ta gloire. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Ici, ce passage si bien connu, surtout ce verset 8 que je suis certain la plupart, sinon tous, pourraient citer de mémoire ou on pourrait dire paraphraser. Peut-être on n'aurait pas tous les mots exactement comme il faudrait, mais cette idée que nous sommes sauvés par grâce. Et ce sur quoi Paul veut mettre l'accent dans ce passage, ainsi que la fin de chapitre 1, c'est la nécessité de tous du salut. Oui, le salut par la grâce est quelque chose d'important. Et Paul va en parler et il va expliquer dans des termes très très clairs qu'on accède au salut par Jésus-Christ. Mais ce qu'il veut présenter dans un premier temps, c'est la nécessité de tous du salut. Et puis, Paul va dire, parce que tous ont besoin du salut, tous doivent accepter Jésus-Christ. Mais même au-delà de cela, Paul veut montrer la finalité de la chose. Parce que le salut en Jésus-Christ, c'est pourquoi ? Quel est le résultat ? Quel est le but ? Quelle est la finalité du salut en Jésus-Christ ? Et Paul va donner deux réponses à cela dans ce passage. Mais avant d'arriver à ces réponses, il va donner toute une explication. Et il va commencer au chapitre 2 en parlant de notre condition avant. Et c'est là où il commence chapitre 2 en disant « vous ». Souvenons-nous, il parle aux saints qui sont à Éphèse. chapitre 1, verset 1, nous a parlé de cela. Il parle aux gens qui sont sauvés. Et il dit, vous, donc ces chrétiens, et on pourrait presque remplacer ce « vous » par « nous ». Nous, ici à Vernon, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et lorsque nous commençons à réfléchir là-dessus, on voit que ça va totalement à l'encontre de notre siècle présent. Parce que notre siècle présent va dire, oui, mais je ne suis pas aussi mauvais qu'un tel ou tel. Je ne suis pas celui qui a tué. Vous savez, dans les infos, on entend des choses horribles parfois. Des meurtres, des vols, des escroqueries, des fraudes, des promesses brisées, des mauvaises décisions. On entend toutes sortes de mauvaises choses et parfois, on peut avoir la pensée, « Ah bah heureusement, je ne suis pas comme ces gens-là. Heureusement, je ne suis pas aussi mauvais que telle ou telle personne qui est allée en prison ou telle personne qui est dans le gouvernement. » Parce qu'il y a des gens mauvais dans le gouvernement, sans citer de nom, bien sûr. Et nous pouvons peut-être nous donner un peu bonne conscience en disant, « Mais je ne suis pas aussi mauvais que certains. » Je ne suis pas peut-être tout ce que je devrais être, mais au moins, merci Seigneur, je ne suis pas comme telle ou telle personne. Et ce n'était pas du tout la perspective de l'apôtre Paul. Il dit, je reconnais que moi, j'étais mort dans mes offenses et dans mes péchés. J'étais totalement séparé de Dieu. Ça, c'était ma condition. Et ça, c'était la condition de chacun d'entre nous avant notre conversion. Et si on n'est pas encore sauvé, c'est encore notre condition aujourd'hui. Et Paul est très clair, sans ambiguïté dans ce passage, que tous, avant la conversion, sont dans cette condition de mort spirituelle et séparation d'avec Dieu. Et il montre bien que la faute n'est pas du côté de Dieu. Non, la faute est entièrement la nôtre. Il dit, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. C'est parce que nous avons péché que nous sommes séparés de Dieu spirituellement. Et verset 2, Paul montre que ce n'est pas simplement quelque chose d'exceptionnel. Ce n'était pas de temps en temps, ah mince, je vais pécher par là. Non, il dit, dans lesquels vous marchiez. Il dit, c'était votre conduite, c'était votre façon de vivre. C'était votre habitude. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. On se laissait entraîner. C'était l'habitude, c'était ce qui était attendu de nous. Et nous le voyons aujourd'hui, ce monde devient de pire en pire, n'est-ce pas? Des décisions de plus en plus désastreuses. Et nous voyons le train de ce monde, sa façon d'agir, aller de mal en pis, s'éloigner de Dieu de plus en plus. Et Paul dit, c'est dans cette condition que nous sommes, si nous n'avons pas encore accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Sans exception. Et il dit, avant la conversion, voici comment nous étions. Et il dit, ce n'est pas simplement le train de ce monde, ses habitudes, sa façon de faire, mais aussi c'est selon le prince de la puissance de l'air. Ici, on fait référence à Satan. Satan est puissant, ne l'oublions pas. Satan agit dans ce monde. Satan pousse des personnes à agir d'une certaine façon. Satan influence des gens de s'éloigner de Dieu. Et puis Paul ajoute de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les gens qui sont encore inconvertis subissent l'influence et la pression de Satan. Et ils n'y peuvent rien. Ils ne peuvent pas lui résister. Nous, si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons accepté Jésus-Christ, nous pouvons résister au diable, à Satan. C'est pour cela que Pierre nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de nous ». Mais les inconvertis, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ne peuvent pas résister et font ce que Satan leur pousse à faire. Et pour qu'il n'y ait encore une fois pas d'ambiguïté, verset 3, Paul dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre ». Paul se met là-dedans. Il dit « C'est pas simplement vous, Éphésiens, mais moi j'y étais aussi. Je reconnais que j'étais loin de Dieu. Je reconnais que j'étais ennemi de Dieu. Et malgré toutes les bonnes choses que Paul avait, il était juif. Il était de la tribu de Benjamin. Il avait fait de grandes études théologiques. Il était pharisien. Il était zélé pour Dieu, ou il croyait l'être. Et Paul dit, même moi, j'étais de ce nombre des personnes qui étaient loin de Dieu. Et il reconnaît qu'il accomplissait la volonté de sa chair, de ses pensées, et il était par nature enfant de colère, ennemi de Dieu, comme les autres. Et c'est dans cette condition qu'est chacun. Et je suis convaincu que la réaction face à ces trois premiers versets, pour nous, doit être la tristesse si nous sommes enfants de Dieu, et puis la crainte si nous ne sommes pas enfants de Dieu. La tristesse pour les enfants de Dieu, parce que de voir quelqu'un dans cette situation sans aucun espoir en lui-même de pouvoir s'en sortir, ça doit stimuler de la tristesse de notre côté pour des personnes qui sont encore inconverties. Lorsque vous lisez ces versets et vous vous rendez compte comment vous étiez avant le salut et qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui sont dans cette condition, loin de Dieu, ses ennemis, sous la colère de Dieu, est-ce que cela vous rend triste, me rend triste? Ou est-ce que nous avons plutôt une indifférence face à cela? Ben, tant pis pour eux, c'est dommage, mais on n'y peut rien. Lorsque je lis ces versets, lorsque nous lisons ces versets, ça doit stimuler une tristesse qui nous pousse ensuite à agir, à annoncer le salut en Jésus-Christ. Mais tout comme ce passage doit stimuler de la tristesse chez l'enfant de Dieu, ceci doit stimuler de la crainte chez l'inconverti. Parce que Dieu ne fait pas des menaces inutiles. Nous, les inconvertis, sont encore sous la colère de Dieu aujourd'hui. Les inconvertis qui meurent aujourd'hui vont passer l'éternité dans des tourments loin de Dieu. Et ça doit stimuler de la crainte. Nous devons craindre le jugement à venir. Oui, Dieu est un Dieu d'amour, mais ce n'est pas pour autant que tous seront sauvés, que quelque part à la fin, Dieu va dire de toutes les façons, tu n'as pas tout fait tout comme il faut, mais je vais quand même te laisser entrer au ciel. Non! Si on meurt sans Jésus-Christ, on passe l'éternité dans des tourments loin de Dieu. Et ça n'inspire pas la crainte, ben c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui est le jugement de Dieu. Et Paul ici dit, nous étions comme cela. Et il y a encore bien des personnes qui sont dans cette condition d'inconvertis. Et la question qui se pose à nous, que faisons-nous? Sommes-nous poussés à agir plus parce que nous comprenons la réalité de ce que Paul dit ici? Mais heureusement, Paul ne brosse pas un tableau totalement noir. Non, il y a ce « mais » qui est là au début de verset 4. Un mot dont Paul se sert fréquemment. Paul aime bien les contrastes. Vous l'avez peut-être remarqué depuis le début de cet épître. Si vous connaissez bien les écrits de Paul, Paul aime bien les contrastes. Et dans les trois premiers versets, il montre comment nous étions. Mais... Et c'est formidable parce qu'au verset 4, Dieu qui est riche en miséricorde. Et qu'est-ce qu'il fallait de la miséricorde pour nous pardonner? Parfois, on se dit, ah oui, pour telle ou telle personne, c'est sûr, il fallait beaucoup d'amour et beaucoup de miséricorde pour sauver cette personne. Pour moi, bon, Dieu, il fallait un peu de miséricorde parce que je n'étais pas si mauvais que ça, mais pour telle ou telle personne, ah oui, c'est sûr. Bah, la grâce de Dieu a vraiment travaillé là, c'est sûr. Et pourtant, la miséricorde de Dieu est riche envers chacun d'entre nous. Parce que le moindre péché contre Dieu est en fait un péché contre toutes les lois de Dieu. Jean l'explique dans sa première épître. Et Dieu qui est riche en miséricorde, il ne nous donne pas ce que nous méritons. C'est ça l'idée de la miséricorde. La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons. Parce que nous sommes nés pécheurs, parce que nous péchons, nous méritons la mort et l'éternité loin de Dieu. Mais à cause de la miséricorde de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, Dieu enlève cette condamnation. Et Paul, ici, il qualifie cette miséricorde de riche. Elle n'a pas de limite. N'importe qui peut bénéficier de cette miséricorde. Ce n'est pas simplement pour une élite, ce n'est pas simplement pour un groupe spécifique, mais c'est pour tous. Et cette miséricorde fait partie de qui Dieu est. Et c'est cette miséricorde, Paul dit, qu'il a poussé dans son amour à nous aimer. Et Paul, ici, il ne veut pas simplement rester avec des mots simples, des expressions simples. Non, 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 il faut qu'il aille au-delà. Il dit, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et depuis le début de cet épître, Paul est en train de parler de l'amour de Dieu. Et il ne veut pas que les chrétiens d'Éphèse, Dieu ne veut pas que nous, aujourd'hui, ici à Vernon, nous perdions de vue cet amour de Dieu. Et rien que nous puissions faire dans notre vie va changer l'amour de Dieu pour nous. Dieu ne peut pas vous aimer plus aujourd'hui qu'il vous a aimé au moment de votre conversion. Et Dieu ne vous aimera pas plus dans l'avenir qu'il vous aime aujourd'hui. L'amour de Dieu est constant. Dieu nous aime tous de manière égale. Il n'aime pas l'un plus que l'autre. Non, non, non. Son amour est grand. Il nous a aimés tous. Et Paul, au verset 5, de nouveau fait le contraste. Nous qui étions morts par nos offenses. C'était de notre propre faute que nous étions loin de Dieu. Et quelle était la réaction de Dieu face à cela? Ah ben, tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à m'obéir. Ils n'avaient qu'à rester dans ma volonté. Et là, j'aurais pu les bénir. Là, j'aurais pu les aimer. Mais bon, ils ont choisi de pécher, alors débrouillez-vous. Non. Nous étions loin de Dieu. Et pourtant, Dieu dit, je ne vais pas les laisser dans cette condition. Je vais leur donner l'occasion de revenir à moi. Et au verset 5, même si nous étions morts par nos offenses, bah Dieu nous a rendus vivants avec Christ. De la même façon que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, après les 3 jours dans le tombeau, Dieu nous rend la vie spirituelle. Nous n'étions pas morts physiquement, non, nous étions morts spirituellement. Nous étions séparés de Dieu, mais maintenant nous sommes vivants avec Christ. Ça, c'est la réalité. Parfois, on a l'impression qu'on est un peu plus vivant spirituellement qu'à d'autres moments. Parfois, on ne se sent pas trop vivant spirituellement, n'est-ce pas? Parfois, on traverse des moments difficiles, on est découragé, on a des épreuves, et on ne se sent pas trop vivant spirituellement. Et pourtant, la réalité, c'est que nous sommes vivants avec Christ spirituellement. Et là, comme vous le voyez entre parenthèses, Paul insiste pour qu'il n'y ait pas de doute, comme s'il pourrait en avoir. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est la grâce qui est là. Nous n'avons rien mérité pour le salut. Dieu ne nous a pas regardés en disant « Ah oui, c'est vrai, telle ou telle personne a obéi presque à toutes mes lois, presque à tous mes commandements. Alors ce petit qui lui manque, bon, je vais lui pardonner et puis ça ira bien. » Non. C'est par la grâce. Tout vient de Dieu. Et verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Alors c'est assez intéressant comment Paul formule la chose ici, parce qu'il parle au passé. Il dit « Dieu nous a ressuscités, oui, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. » Ah bon? Ben, d'après ce que je vois, on est tous encore ici, hein? Ben, vous êtes bien là, rassurez-moi. Je ne vois pas des fantômes. Non, vous êtes bien là. Alors, comment est-ce que Paul peut parler au passé de quelque chose qui apparemment n'a pas encore eu lieu? Et il le fait parce qu'il y a la certitude, tout comme Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ, un jour, nous serons avec lui. Et c'est comme si nous y sommes déjà. Il y a cette certitude que toute personne sauvée par grâce passera l'éternité avec Dieu. Rien ne peut changer cela. Et Paul en est tellement convaincu qu'il parle dans les termes du passé. D'ailleurs, c'est quelque chose que les Juifs avaient l'habitude de faire. Lorsque dans les prophéties, souvent, on parlait d'un événement à venir, mais on parlait en termes en fait, du passé ou même du présent. Parce que la certitude de la chose était là. Et parce qu'on est certain, on est convaincu, on a cette assurance, on peut parler comme un fait accompli. Et c'est ce que Paul fait ici. Oui, il nous a ressuscités ensemble, donc spirituellement, mais aussi, nous avons cette assurance d'être avec Dieu, avec Jésus-Christ pour l'éternité. Donc, c'est comme si c'est déjà fait. Et quelle merveilleuse espérance pour nous. Peu importe ce qui nous arrive ici sur la terre, rien ne peut changer notre position devant Dieu. Malgré notre péché, malgré nos difficultés, nos épreuves, malgré ce que les gens nous font, malgré tout ce qui pourrait nous arriver, rien ne peut changer le fait que Dieu nous a aimés, qu'il nous a sauvés si nous l'avons accepté par la foi, et qu'un jour nous passerons l'éternité avec lui. Et aujourd'hui, dans ce monde, qu'est-ce que nous avons besoin de ce rappel? Je le dis pour moi, tout comme pour chacun d'entre nous, parce que la réalité, c'est que nous vivons dans un monde où nous sommes confrontés de plus en plus avec le mal, nous sommes confrontés de plus en plus avec les gens qui font des mauvais choix, nous sommes confrontés de plus en plus aux attaques de Satan. Et si nous ne faisons pas attention, nous pourrons glisser un peu dans cette façon de penser comme quoi les choses qui nous arrivent vont changer l'amour de Dieu pour nous, vont changer quelque part notre perspective éternelle. Et je suis convaincu que si je demandais à chacun « Est-ce que l'amour de Dieu pour vous change ?» vous allez tous dire « Non, l'amour de Dieu ne change pas, Dieu ne peut pas changer. » Et pourtant, la façon dont nous vivons notre vie de tous les jours, nos interactions avec les inconvertis, nos interactions même avec nos frères et sœurs en Christ, parfois manifestent et trahissent un peu une incohérence dans ce que nous pensons et dans ce que nous vivons. Et Paul, ici, il rappelle aux Éphésiens, « Voici ce que vous étiez. N'oubliez pas cela. Vous n'êtes pas supérieur aux autres. Vous étiez comme les autres. La seule différence, c'est que Dieu vous a sauvé en Jésus-Christ. Et parce que vous êtes sauvé, vous avez ce salut éternel, assuré. C'est une certitude. Et cela doit changer notre conduite. On avait une façon de vivre auparavant, et maintenant que nous sommes sauvés, cette façon de vivre doit être différente, doit être réglée sur la parole de Dieu, sur l'exemple de Christ. Et pour faire cela, pour que ce changement ait lieu, la fin du chapitre 1 que nous avons examiné la semaine dernière, cette puissance que Dieu a déployée en Jésus-Christ, pour nous, c'est pour nous changer. La puissance divine, la puissance qui a créé cet univers, que nous sommes encore en train de découvrir d'ailleurs, littéralement des milliers d'années après que Dieu l'ait créé, cette puissance-là est à notre disposition. Et Dieu a fait tout cela pour vous. Il a fait tout cela pour moi. Et lorsque nous sommes dans cette perspective, on se dit, mais aujourd'hui, peu importe les choix du gouvernement, peu importe ce que peut faire un frère et une sœur, peu importe ce que peut faire toute autre personne, peu importe ce qui peut m'arriver, comment puis-je être déstabilisé? Comment puis-je douter de l'amour de Dieu? Comment puis-je être découragé? Et pourtant, le découragement, c'est une réalité. Nous le vivons tous. Mais dans ces moments, de nous souvenir, voilà ce que Dieu a fait pour moi. C'est merveilleux. Et ça nous aide à avancer. Voici la réalité de ce que Dieu a fait pour nous. Maintenant, à partir de verset 7, Paul va expliquer la raison derrière. Parce que jusque-là, il présente les faits. Voici ce qui s'est passé, la réalité. Mais maintenant, Paul passe au but, à la raison pour cela. Parce que lorsqu'on réfléchit, pourquoi est-ce que nous sommes sauvés? Pourquoi est-ce que Dieu a déployé toute cette puissance en Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'il nous a sauvés de cette vaine manière de vivre? Pourquoi est-ce qu'il nous a transformés? Est-ce que c'est simplement pour que nous ayons une meilleure vie? Dieu souhaite qu'on ait une meilleure vie. La vie avec Christ est la meilleure qui soit. Est-ce que Dieu nous a sauvés pour que nous n'ayons plus de soucis? Et pourtant, les chrétiens, ils ont des soucis. Hein? Parfois, on se dit, les chrétiens, ils ont plus de soucis que les gens du monde. Est-ce que c'est pour qu'on n'ait plus aucun souci, aucun problème, aucun besoin? Est-ce que Dieu nous a sauvés simplement pour que nous passions l'éternité avec lui? Est-ce qu'il nous a sauvés simplement pour qu'on échappe au jugement éternel? À entendre parfois des prédicateurs, à entendre parfois certains enseignements, on pourrait croire que c'est le cas. Parfois on entend, venez à Jésus, vous n'aurez plus de problème. Aïe, 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 aïe. C'est faux. Venez à Jésus, vous aurez beaucoup d'argent. Qu'est-ce que j'aimerais que ce soit le cas, n'est-ce pas? Et souvent, Dieu bénit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il ne faut pas négliger cela. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut venir à Dieu. Venez à Jésus-Christ, tous vos problèmes vont se régler. J'aimerais que ce soit le cas. Mais ce n'est pas ce que dit la parole. Et voici ce qu'on entend très souvent, et je comprends le sentiment derrière, mais je me demande si c'est passé un peu à côté de ce que dit la parole. Venez à Jésus-Christ pour ne pas aller en enfer, ou venez à Jésus-Christ pour échapper au jugement. Et il y a une part de vérité à cela. Oui, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, on n'est plus sous la condamnation. Romains chapitre 8, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais est-ce que la raison pour laquelle nous venons à Jésus-Christ, c'est simplement pour éviter un jugement éventuel? Venez à Jésus-Christ pour avoir une place au ciel. Oui, parce qu'on vient à Jésus-Christ, on a une place assurée au ciel auprès de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas ce que Paul dit dans ce passage. pourquoi est-ce que nous venons à Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que Dieu nous sauve? Regardez, verset 7. Dieu nous sauve pour lui. Et là, je paraphrase, mais c'est le sens de ce verset. Dieu nous sauve, non pas pour nous, premièrement. Nous en bénéficions, bien sûr, mais Dieu nous sauve pour lui. Regardez, afin de montrer dans les siècles à venir, donc jusque dans l'éternité, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Paul ici donne la raison derrière la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dieu, depuis toute éternité, a préparé le salut en Jésus-Christ afin de montrer combien sa grâce est grande, combien son amour est immense. Et j'aime tellement cette expression, l'infinie richesse de sa grâce. Sa grâce n'a pas de limite. Et il a fait cela pour manifester sa puissance. Parce que lorsqu'on réfléchit de façon logique, ce que Dieu a fait est totalement illogique. Comme Paul dit dans les premiers versets de ce chapitre, nous étions morts par nos offenses. Nous étions ennemis. Dans l'épître aux Romains, Paul va dire, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais qui ferait ça? Jésus va dire, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un juste, mais pour un condamné, pour quelqu'un qui a fait du mal, personne ne mourrait pour lui. Mais Jésus l'a fait. Et c'est totalement illogique. Mais ça ne se fait pas. Et pourtant, Dieu l'a fait pour montrer combien il est grand. Aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Dieu nous a sauvés, vous et moi, si nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a sauvés, non pas parce que nous sommes quelque chose, non pas premièrement pour nous donner quelque chose, mais Dieu nous a sauvés pour manifester sa puissance et son amour. Et nous aurions l'audace, face à cela, de vivre notre vie comme nous voulions, comme si nous sommes quelque chose. Nous avons besoin d'être repris. Moi, j'ai besoin d'être repris. Parce que nous ne vivons pas notre vie toujours comme nous devons à la lumière de cette vérité. Dieu nous a sauvés avec le but principal et premier de montrer l'infinie richesse de sa grâce. Et bien sûr, il y avait sa bonté qui était là en Jésus-Christ. Et bien sûr, il y a toutes les choses qui découlent du salut en Jésus-Christ. On n'est plus sous la condamnation. On a une place assurée au ciel. Mais ces choses, en réalité, sont secondaires au fait que Dieu manifeste sa puissance en nous. Et au verset 8 et 9, Paul explique, bien sûr, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la foi, nous acceptons, nous croyons, nous mettons notre confiance. Cela ne vient pas de nous. Verset 9, ce n'est point par les œuvres. Alors, est-ce qu'il laisse la place pour l'ambiguïté là? Ce n'est point par les œuvres. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens dans le monde qui croient que pour arriver à Dieu, parfois il faut donner un petit coup de pouce? Ah oui, il faut que je fasse quelque chose. Dites-le moi alors. Quoi pourrions-nous faire pour nous sauver? Rien du tout. J'ai entendu cette illustration. Elle est vraiment pas mal. Et il me semble que je l'ai déjà utilisée ici. Imaginons-nous, on est tous au bord du Grand Canyon aux États-Unis. Donc ce grand vide qui est là. Et vous regardez l'autre côté. Et là, on va avoir un concours. Et on va essayer de voir qui peut sauter d'un côté à l'autre. Et certains vont sauter plus loin que d'autres. Moi, avec mes petites jambes, j'irai pas très loin. Notre frère Patrick, bien entraîné, lui, il va aller loin. Mais à votre avis, qui atteindra l'autre côté? Même à l'endroit où c'est le plus resserré? Bah, personne. Certains iront plus loin que d'autres, mais personne n'atteindrait l'autre bord. Et c'est ça l'idée avec notre péché. Certains sont, aux yeux du monde, meilleurs que d'autres. Certains font des choses horribles et le monde les condamne. D'autres font ce qu'on appelle les petits péchés, les petits manquements. Mais aux yeux de Dieu, comme Paul va l'expliquer au Romains chapitre 3, on n'atteint pas la gloire de Dieu. On arrive tous en dessous. Et Paul dit, ce n'est point par les œuvres. Aucune œuvre que nous pourrions faire ne peut participer à notre salut. Parce que sinon, Paul dit au verset 9, bah, nous pourrions nous glorifier. Je pourrais dire, ah oui, j'ai participé, j'ai fait quelque chose. Et en réalité, non, nous croyons, c'est tout. Nous plaçons notre confiance et Dieu fait le reste. Alors, au début de ce message aujourd'hui, je vous ai dit que que Paul ici donne deux raisons du salut en Jésus-Christ. Donc, il y a deux raisons. La première se trouve au verset 7, nous l'avons vu. Malgré ce que nous étions, malgré ce que nous avons fait, Dieu nous sauve pour manifester sa puissance et son amour. Mais la deuxième raison pour laquelle Dieu nous sauve de cette façon se trouve au verset 10. Et ceci est vraiment terre à terre, pratique et doit agir dans notre vie. Après avoir parlé de ce salut en Jésus-Christ par la foi, par la grâce de Dieu, verset 10, nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de Dieu, Dieu est en train de nous construire. C'est tout un processus, n'est-ce pas? Lorsqu'on se convertit, nous avons encore des travers. Et encore aujourd'hui, si nous sommes honnêtes, chacun a ses travers. Nous ne sommes pas parfaits. Et on se dit, oui, c'est sûr. Nous ne sommes pas parfaits. Et pourtant, Dieu attend de la perfection et son but, c'est de nous rendre parfaits. Mais nous ne sommes pas encore parfaits. Nous sommes son ouvrage. Dieu est en train de nous construire, de nous modeler. Et Paul dit, ayant été créés en Jésus-Christ, encore une fois, tout revient à Jésus-Christ. Nous sommes sauvés en lui, c'est son amour qui a été manifesté, c'est par lui que nous sommes sauvés. Et nous avons été créés en Jésus-Christ, et là regardez, pour le but, la finalité de la chose, pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres, pour être à l'œuvre. Nous sommes sauvés, non pas simplement pour attendre un jour d'être au ciel avec Dieu en disant, voilà, j'échappe au jugement et maintenant, j'attends. Je suis passif. Non. Paul dit, Dieu nous sauve dans le but que nous soyons à l'œuvre. Ce qui fait que si je ne suis pas à l'œuvre, je suis désobéissant. Je suis rebelle à Dieu. Et c'est la chose la plus illogique que nous pourrions faire, parce que Dieu a fait tout de son côté, et je ne ferai rien à cause de cela. Et Paul dit, nous avons été créés, cette nouvelle naissance, nous sommes cet homme nouveau en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Non pas de mauvaises œuvres, non pas les choses que nous faisions auparavant, mais pour de bonnes œuvres. La joie, l'amour, l'aide que nous apportons les uns aux autres, le témoignage. Et puis, c'est extraordinaire. À la fin de ce verset, Paul explique que ces bonnes œuvres, Dieu les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. ces bonnes œuvres ne se font pas toutes seules. Il faut agir. Ce ne sont pas simplement de bonnes intentions. Ah, ce serait bien si. Il faut avoir des projets, bien sûr, mais s'il n'y a pas d'action, les meilleures intentions n'aboutissent à rien. Et Paul dit ici, Dieu a préparé à l'avance des œuvres que nous devons faire. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes en train de pratiquer ces bonnes œuvres que Dieu a préparées? Ou est-ce que nous nous occupons plutôt de nos propres œuvres, de nos propres affaires, de nos propres désirs? Non pas que nos désirs soient forcément mauvais, comprenez bien. Mais quel est le but? Quelle est la finalité de la chose? Je suis sauvé, ok, très bien. Je porte un nom, chrétien. Ok, très bien, gloire à Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelles œuvres est-ce que j'accomplis? Quand Paul va écrire à l'église en Galatie, il va leur dire, il y a les œuvres de la chair, il y a les œuvres de l'esprit. Et bien sûr, il faut faire les œuvres de l'esprit, produire le fruit dans tous ses aspects, le fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, si nous faisons le bilan de notre vie, est-ce que nous pouvons dire que nous faisons, nous accomplissons ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance? Dieu les a déjà préparées. Dieu a tout fait. Et nous serions là en train de les laisser de côté? C'est un grave, une grave, grave erreur. Et je dois repentir pour cela. Parce qu'il m'arrive de passer à côté de ces bonnes œuvres, tout comme nous tous. Et lorsque j'examine ma vie, le lundi matin, je me lève, j'ai toute la semaine devant moi, avec toutes ces différentes occupations, ces activités, ces responsabilités. Et est-ce que ma pensée est celle-ci? Qu'est-ce que je fais pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées aujourd'hui? Seigneur, quelles sont les œuvres que tu as préparées pour moi aujourd'hui? Et Seigneur, aide-moi à les faire. Est-ce que c'est ça notre pensée? Je dois admettre que c'est trop ce n'est pas fréquemment ma pensée. Nous sommes occupés à droite et à gauche avec des choses parfois légitimes. Mais est-ce que nous passons à côté de la finalité de notre salut? Nous sommes sauvés. Nous portons ce nom d'enfant de Dieu, de chrétien. Ok, et encore, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour accomplir ces bonnes œuvres? Prier davantage? Aider quelqu'un qui est dans le besoin? Être présent aux réunions de l'Église? Être généreux avec les ressources que Dieu me donne, dans la dîme, dans les offrandes? Apporter mon aide pour l'Église? Être présent pour les réunions d'évangélisation? Témoigner à mes collègues de travail, témoigner dans ma famille. Voici des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Qu'est-ce que nous faisons? Sommes-nous présents? Sommes-nous à l'œuvre? Parce que si nous ne le sommes pas, quelque part nous disons le sacrifice de Christ était en vain. Dieu a perdu son temps parce qu'il a préparé des choses que moi, je ne veux pas faire. Ou que j'oublie de faire, ou que je ne trouve pas aussi importante à faire. Et nous devons être saisis de la gravité de la chose. Parce que Dieu, dans son infinie sagesse, et dans son infinie grâce, son amour si grand, il nous a sauvés afin que nous pratiquions ces choses. Quelque part, ce n'est pas une option. Ah, aujourd'hui, si je me sens bien, je vais le faire. Demain, bah, je verrai. Si je me sens pas bien, bah, tant pis. Non, la grâce de Dieu est là. Et chaque jour, nous devons demander l'aide de Dieu. Nous devons demander sa sagesse. Dieu, donne-moi les priorités que tu veux. Peu importe ce que font les autres, peut-être d'autres passent à côté de ces choses. Mais Seigneur, je ne veux pas passer à côté. Peut-être d'autres restent désobéissants. Peut-être. Mais peu importe, Seigneur, ce que moi je veux, c'est de t'obéir, de faire ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Ça doit être notre prière tous les jours. Je dois le faire. Je dois demander pardon à Dieu lorsque je manque à ce devoir. Je dois demander son aide pour le faire chaque jour. Quelle est la finalité du salut? Pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés? C'est pour manifester sa puissance, son amour, sa gloire. Mais c'est aussi afin que nous pratiquions ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Maintenant, qu'allons-nous faire? Vous avez un choix, moi j'ai un choix. Un choix sera fait ici aujourd'hui par chacun. Soit, oui, Seigneur, je vais faire cela, je vais demander ton aide. Ou, Seigneur, ce n'est pas si important que cela. Je verrai peut-être, peut-être si j'ai le temps, peut-être si ça m'arrange. Un choix sera fait. Par la grâce de Dieu, faisons le choix que Dieu veut que nous fassions et qu'il nous rend capables de faire par sa grâce. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et tu vois notre cœur, tu vois notre esprit, tu vois nos pensées, tu vois nos désirs, rien n'est caché à tes yeux. Tu nous vois tels que nous sommes réellement et tu nous aimes. Tu veux notre bien, tu veux accomplir toutes ces choses en nous et à travers nous. Et Seigneur, nous reconnaissons nos manquements, nos lacunes, notre péché. Nous demandons pardon, que tu nous fortifies, que tu enlèves tout obstacle qui pourrait nous empêcher de t'obéir, d'accomplir ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Que tu nous aides chaque jour à renouveler cet engagement, à renouveler cette prière d'aide de ta part, que tu nous remplis de ta force, qu'il soit évident autour de nous que nous sommes en train de faire les bonnes œuvres que toi tu as préparées, que les gens puissent voir dans notre conduite, dans notre attitude, dans nos paroles, que c'est toi qui es en premier, c'est toi qui nous dirige. Et Seigneur, à cause de cela, que tu reçois tout cet honneur et toute cette louange qui t'est due. Que ce soit le cas chaque instant de chaque jour que nous avons, que tu nous donnes ici sur la terre. C'est en ton nom que nous prions. Amen.